Oh là là, c'est magnifique! Il y a plein de particules de lumière qui dansent avec les mains et qui sont entre les doigts. C'est comme si on jouait avec des étoiles.
Aujourd'hui, dans Sans Réserve, je vous propose une plongée dans le monde de la scénographie immersive avec des expositions où se mêlent partage des savoirs et émotions. Une exposition immersive, c'est quoi? Est-elle forcément numérique? Comment peut-elle faire œuvre de médiation? Les réponses avec mon invitée Clémence Farel. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Tu es directrice artistique, scénographe et productrice dans les agences Clémence Farel et Muséomaniac. Ta touche perso, oser des mises en scène audacieuses et immersives au service du contenu.
C'est bien ça.
Comme si on jouait avec les étoiles. Clémence, en lancement, nous avons entendu un visiteur de l'espace des sciences de Rennes en pleine immersion dans l'expo Mirage et Miracle. Ça sent l'étonnement, la joie. Ça sert à ça, l'immersivité, c'est susciter des émotions avant tout?
C'est absolument ça, c'est plonger dans un monde, dans un contenu, dans des œuvres, dans l'art, dans la science, dans l'histoire et être au cœur de cet univers.
Et c'est ta définition de l'immersivité ça ou tu en as une autre?
Moi c'est ma définition, c'est vraiment si on prend l'origine du mot immersion, c'est lié à la mer, à l'océan, on plonge, on nage, on est dans un univers justement, on a des nouveaux sons, des nouvelles images, des nouvelles sensations. Et pour moi l'immersion c'est ça, c'est que le visiteur il bascule dans un autre monde, quel qu'il soit, même si c'est une œuvre, et c'est différent de son quotidien, ça va l'interroger, ça va l'interpeller, et dans son corps, immergé dans le contenu, il va vivre une expérience.
Et toi, tu as vraiment cette spécificité-là. En tant que scénographe, tu travailles principalement quand même sur des expositions immersives. Comment tu es arrivé là-dedans?
Alors moi, je suis arrivé là-dedans d'abord parce que j'ai une âme d'enfant. Ça, je pense que c'est important d'avoir la fantaisie et le jeu, l'émerveillement, le rire, tout ça. Et puis, j'ai commencé dans le cinéma. Donc, j'ai appris les techniques des effets spéciaux, des décors, des maquettes et puis le langage du film. Donc, après, quand je suis passée à la scénographie d'exposition, parce que j'étais maman, donc je ne pouvais pas être chef décoratrice, c'est difficile.
Un changement de rythme, en fait, voilà, qui t'a amené là-dedans.
Exactement. Eh bien, j'avais toujours cette approche numérique, digitale, filmesque, effets spéciaux, maquettes, décors, 3D.
Parce audiovisuel,
que audiovisuel ouais.
Et raconter des histoires.
C'est ça.
Et tu as justement signé la scéno audiovisuelle de l'expo Venise Révélée, qui avait été proposée au public du Grand Palais Immersif en 2022. Écoutons un instant Roy Amit, son directeur.
Le public, devant ce type d'écran, il est à la fois spectateur, parce que c'est éblouissant, mais aussi acteur, et choisit lui-même ce qu'il a envie de découvrir. Hein. On pourrait zoomer, je dirais presque à l'infini, et de découvrir une multitude de détails complètement invisibles à l'œil nu, mais aussi on découvre vraiment les traces des pinceaux des Tintoret.
Le visiteur acteur, ici dans cet extrait, il est acteur grâce à un écran tactile, donc un type d'outil numérique. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises justement dans tes expositions? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que les écrans tactiles?
Ah ben, l'immersion, en fait, c'est un environnement qui peut être de toutes sortes. Il n'est pas forcément numérique. Ça peut être du décor, ça peut être de la lumière, ça peut être du son, ça peut être de l'image. L'essentiel, c'est la posture du visiteur, c'est un mot peut-être un peu barbare, mais qu'on utilise beaucoup dans le métier, c'est comment on met le visiteur dans des espaces. Donc on peut être entouré que d'images imprimées, ça peut être une première immersion. On peut être dans une salle blanche avec du son, on est dans un environnement. Donc le film, évidemment, c'est une des composantes fortes, parce qu'on crée des sens sur plusieurs formes, c'est-à-dire auditives, visuelles,
spectaculaires,
le rythme et tout ça, mais il y a plein d'autres manières.
C'est vraiment... l'occurrence, dans cette exposition-là, il y avait quand même une volonté de quelque chose de très immersif numérique.
Ah oui, mais ça, c'est la particularité du Grand Palais immersif qui est vraiment axé sur ça, c'est-à-dire que c'est des visites numériques, audiovisuelles, et l'immersion, ils la font par les images animées.
Sur des sujets quand même autour de l'art, Et quand il s'agit d'art, ça me semble quand même plus facile que quand on parle, de science, des expos d'art immersif. Il en existe quand même déjà pas mal, depuis quelques années déjà. Des projections monumentales, de la musique, un effet waouh un peu garanti. Mais il y a un risque quand même, il me semble.
Mon risque de la dimension immersive, c'est de ne pas se concentrer sur le contenu. Je pense qu'un très bon film sur une petite télévision sera toujours plus intéressant à regarder qu'un très mauvais film sur un écran géant. Donc la dimension immersive et monumentale est accessoire. Ce qui est important, c'est l'œuvre.
Ce qui est important, c'est l'œuvre, nous dit Philippe Ligaud, concepteur du projet Jam Concept. Tu connais Jam Concept?
Non, je connais pas, mais je vais m'en
servir. On mettra les ressources complémentaires avec le podcast. Ce qui est important, donc, selon lui, c'est le contenu, le message. Alors, ça peut sembler complètement évident quand on travaille dans notre métier, mais c'est pas toujours le cas.
Ouais.
Et donc, du coup, comment tu travailles, toi, à trouver cet équilibre entre forme et fond?
Alors je fais pas toujours le contenu, donc je suis pas toujours maître des horloges pour cet équilibre. Mais quand je suis muséographe avec mes équipes de muséographes, c'est-à-dire que quand c'est nous qui scénarisons le contenu et qui décidons sous quelle forme on va le présenter au public, c'est la clé pour moi de la réussite d'une exposition immersive. C'est d'avoir un contenu très pointu. Mais par contre, la manière de le délivrer au public doit être fun, doit être attractive. Mais si on n'a pas cette combinaison d'exigences à la fois intellectuelles, culturelles, scientifiques, et une exigence de qualité émotionnelle et de rendu effet spécial numérique, eh ben, il nous manque quelque chose, ça boite, quoi. Mm-hmm. Donc moi, je cherche cet équilibre fort et garant d'un succès auprès de tous les publics, et ça, c'est essentiel.
Et tu dis que ce n'est pas toujours le cas en fonction des personnes avec qui tu travailles. Tu rencontres des résistances parfois encore sur le terrain?
Ce n'est pas des résistances, je pense que c'est une manière, un manque de savoir-faire, ou peut-être justement, il faut avoir une vision globale. Donc quand parfois les clients veulent trop séparer le contenu de la forme, et qu'on n'a pas, nous, la mission du contenu, et ben le match ne se fait pas, en fait. Donc, c'est vraiment bien quand nous... C'est pour ça que j'ai monté ma boîte de production. C'est quand on peut un peu tout faire, parce qu'on pense en même temps le contenu et la forme. Il n'y a pas de dissociation. Et d'ailleurs, souvent, moi, quand je propose des projets, je change un peu le programme de mes clients pour l'adapter au mieux, sans, tout en respectant leur contenu, à la forme que je propose.
Tu disais quand il y a résistance en face, enfin que ça ne marche pas, ça matche pas. Du coup, le projet, il se fait au détriment du contenu ou au détriment de l'immersivité? Qu'est-ce que tu as rencontré comme échec?
Je passe un grand détriment, mot, peut-être. Mais... plutôt, je dirais, pour être un peu prétentieuse, plutôt au détriment du contenu, parce que moi, j'essaye toujours de faire des belles scénographies, parce que c'est mon rôle et c'est ma mission. C'est pour ça qu'on m'appelle. Donc, j'espère que je fais des belles choses à chaque fois, hein, c'est mon but. Mais du coup, parfois, c'est plus ou moins bien réussi, justement, parce qu'il y a eu plus ou moins de challenge en contenu, et que la forme ne rattrapera jamais un mauvais contenu, comme disait votre interlocuteur. Et par contre, ce que je trouve intéressant... Ouais, voilà, Philippe Ligaud, ce qu'il dit dans cet extrait, il parle d'échelle de projection. Donc ça, c'est une grande question. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. C'est-à-dire, il parle de grande projection plutôt qu'une petite télé.
Or, moi, pour contextualiser, il parle d'un projet qui était proposé à la Villette, sur la Calasse. Et donc, en effet, il était sur des installations très monumentales, très grandes. Et d'où le parallèle avec la petite télé, grand écran.
Oui, c'est ça. Donc apparemment, je dis apparemment comme si je ne le savais pas, l'immersion, c'est de la grande échelle. Mais je ne suis pas sûr.
Peux-tu préciser?
Une toute petite image dans une énorme pièce.
Peut faire de l'immersion?
Ah ouais.
Peut permettre de l'immersion?
Ah ouais.
T'as un exemple concret?
Non, je l'ai dans ma tête.
Ah, tu l'as dans ta tête.
Ouais.
Donc, il faut te suivre de très près.
Ben ouais, ouais.
Justement, en parlant de tes projets, je trouverais intéressant qu'on se fasse un petit retour d'expérience avec un focus sur les musées de sciences. Il me semble que travailler l'immersivité, quand on est dans un musée de sciences qui a une grande collection d'objets, par exemple, c'est pas forcément les choses les plus simples à travailler. Comment tu fais? Est-ce que tu peux nous parler du projet du musée au parc d'Alésia sur lequel tu as travaillé il y a quelques années?
Oui, alors le musée au parc, je suis très contente parce que ça plaît au public. Et donc c'est une exposition permanente sur le site d'Alésia, donc tout le monde
en
connaît. Voilà, les Gaulois, César, Vercingétorix, tout ça. Donc il y avait un enjeu fort de présenter 600 objets d'archéo avec l'austérité des objets d'archéologie qui sont parfois incompréhensibles et assez austères. Il n'y avait pas beaucoup d'éléments figuratifs, on va dire, de lapidaires, des choses que les gens aiment.
On est sur de l'observation, voilà, d'objets.
On est sur des petites choses, oui, très, très abstraites. Donc c'était vraiment très important de donner la médiation. Donc ce musée, justement, je trouve que c'est un très bel équilibre entre de l'immersion avec des grands films qui prennent le visiteur, qui englobent le visiteur pour parler du contenu, des interactifs un peu novateurs avec des écrans transparents sur des objets, une immersion dans le paysage d'Alésia, parce que la première émotion, c'est de comprendre qu'on est au même endroit que César et Vercingétorix. Ça, c'est très important. L'immersion, c'est aussi ça, c'est comprendre.
Et comment tu l'as fait, ça?
Je l'ai fait en donnant à voir ce paysage, en construisant l'espace de manière à créer une coursive qui fait qu'on regarde forcément le paysage, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On peut se perdre. La scénographie, c'est fait de perspectives, de points de vue. C'est vraiment ça, le travail du scénographe. Concernant l'espace, c'est quand un visiteur il arrive dans une pièce, qu'est-ce qu'il voit, quoi, en premier. Donc là, en donnant à voir le paysage dans une grande coursive qui suit, c'est un bâtiment rond, eh ben, on donnait à chaque fois à rêver, parce que pour moi, l'immersion, c'est aussi l'imagination, on pourrait dire ça, c'est l'atmosphère, donc c'est ce qui se passe dans la tête du visiteur. Donc voilà, donc donner à voir le paysage et le confronter à des objets comme ça superposés, pour moi, c'était une manière d'immerger le visiteur dans l'histoire.
Donc, tu as d'abord travaillé sur une approche globale de l'espace. Et après, comment tu as mis en valeur ces objets, les statues, les représentations qu'il y avait dans ce musée?
J'ai fait plein de dispositifs, justement, dans ce truc un peu Disneyland. Moi, j'ose le dire, hein, j'ai pas peur de mélanger du...
Oui, les détracteurs de l'immersivité parlent souvent de Disneylandisation de la culture.
Oui, mais il faut, en gardant la culture. C'est-à-dire qu'il faut attirer les gens qui sont mal à l'aise avec les musées, mais qui adorent Disneyland, il faut les amener. Il faut arrêter d'être snob. Il faut vraiment que socialement, on amène les gens. Et l'immersion, c'est la possibilité de ramener des publics qui ne vont pas au musée.
L'immersivité participe à la démarche sociale
des musées. Oui, parce qu'on a vu que les nouvelles études montrent que c'est toujours pareil, c'est toujours les catégories
CSP+,
qui vont au musée. Et voilà, les expos immersives, elles ramènent un nouveau public. Donc l'enjeu de nous, professionnels de la culture, c'est justement d'avoir du haut niveau culturel avec du haut niveau techno, fun, immersif et tout ça. Donc il faut arrêter de critiquer l'immersion parce que c'est le moyen de ramener les publics.
On va revenir sur le musée au parc, mais quand même par rapport à ce que tu disais là à l'instant, je me pose quand même une question sur les publics. L'idée, c'est de faire venir un public. D'ailleurs, Roy Amit le dit également, le Grand Palais Immersif l'assume. Ils identifient dans leurs études des publics différents de ce qu'ils avaient par ailleurs au Grand Palais. Ouais. Ça fait venir des gens qui ne vont habituellement pas au musée. Par contre, est-ce qu'on perd pas un public en faisant ça? Est-ce qu'on perd pas un public Est-ce que tu as des regards dessus d'abord? Est-ce qu'un public de puristes, par exemple, ne viendrait plus au musée parce qu'on propose ce genre d'expérience immersive?
On ne le perdra pas si on est exigeant dans ce qu'on présente. C'est-à-dire que projeter des peintures en géant, ça n'a pas vraiment de sens s'il n'y a pas une peinture au moins. C'est-à-dire parce que la peinture, c'est pas du papier peint, c'est pas fait pour être agrandi 50 000 fois. C'est ça qui va pas dans l'immersion, par exemple. Ça suffit pas, je trouve. Parce que la peinture, c'est de la peinture, c'est de la matière, c'est tout ça. Donc ça doit être un complément quand on parle de peinture, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on perd les publics amateurs de beaux-arts. Parce qu'eux, ils ne sont pas satisfaits de voir un Van Gogh en 40 mètres de haut. Ce qu'ils veulent voir, c'est le travail de l'artiste. Il y a un espèce de truc d'artefact, enfin de gestes.
L'un ne doit pas se faire au détriment de l'autre. Il faut garder anciennes formes et associer à l'immersif.
On ne va pas citer, mais des grandes projections de peinture, moi, je pense qu'il suffirait d'un tableau.
Moi, je peux le citer, moi, l'Atelier des Lumières.
Voilà. Il suffirait d'un tableau pour que ça prenne tellement plus de sens, parce que à partir de ce tableau qu'on verrait en réel, de zoomer dedans, là ça commence à avoir du sens, parce que là on a une référence de l'œuvre. Donc voilà, mais il y a et donc pour la science et tout ça, c'est vraiment adapté, l'immersion, parce que c'est austère. Enfin, la science, c'est génial, c'est une explication du monde, c'est de l'imagination, c'est du rêve. Enfin, la science, moi, je suis fan. Et donc, ça prête à l'immersion, parce que c'est un discours qui peut être compliqué. Et donc, il faut que les visiteurs plongent dans le contenu pour pouvoir le comprendre.
Oui, ce format permet la démocratisation de la culture, la démocratisation de la science.
Et il n'y a pas de collection en science. Enfin, c'est compliqué. Moi, à part le Musée au Parc.
Alors, revenons justement au Musée au Parc. Alors, comment tu as travaillé sur les objets ?
Alors, les objets, bah, j'ai fait pas mal d'écrans transparents. Moi, j'aime bien cette techno de superposer de l'image avec de l'objet. C'est-à-dire, ça permet de commenter de manière... pas avec le petit cartel à côté comme d'habitude.
L'écran transparent est devant l'objet.
Devant l'objet, et donc j'ai filmé une archéologue qui montre l'objet, j'ai fait grossir l'objet, c'est-à-dire qu'on a un rapport direct entre l'objet et le langage numérique. Donc ça, c'est ce dont je parlais avant pour la peinture, de superposer ces éléments, ça devient intéressant parce que c'est de la médiation dynamique, vivante, magique. Moi, je parle beaucoup de magie dans mon travail, c'est ça l'âme d'enfant, parce que la magie, l'expert normal sup machin, il y échappe pas, il va réagir quelque chose de magique. C'est pas parce qu'il a fait 15 ans d'études qu'il va pas y être sensible. Donc la magie, c'est quelque chose qui réunit les publics. Donc ça, j'ai fait ça, j'ai fait des trucs assez drôles, j'ai refait des statues de César et Vercingétorix, et j'ai fait du
mapping.
Du mapping. Ils parlent comme à Disney, là, la maison hantée, mais ils racontent leur histoire sur la bataille. Donc ça, c'est une manière de prendre un dispositif très fun et de le mettre au service d'un discours complètement historique validé par les archéologues.
Tu t'es inspiré tu parles de Disney, tu t'en es vraiment inspiré ou là tu fais juste le parallèle?
Ah non, je m'en suis inspiré parce que moi quand je suis allé voir la maison hantée là, quand j'étais petite, avec mes mômes, ça j'ai adoré. Donc ça, c'est des choses qui me restent en tête. Et d'ailleurs, moi, je dis qu'une exposition ou une expérience, c'est transformateur. On s'en souvient toute sa vie. Une bonne exposition, on s'en souvient. Elle marque.
Donc elle marche.
Ouais, c'est important. Enfin, moi, je vise ça. Je vise quand même que quand on sort d'une expo, on a vécu un truc peu ordinaire.
Et donc, Vercingétorix et César nous parlent. C'est juste, il y a du son aussi.
Ils nous parlent. C'est des statues. Ils se mettent à bouger. Il y a un détecteur. Enfin, c'est vachement chouette.
Un autre projet sur lequel tu as travaillé, comme quoi l'immersivité, ça, c'est pas si nouveau que ça. Je pense à Titanic au Musée de la Mer à Cherbourg.
C'est ça.
Donc début des années 2010. Tu peux nous parler un peu du travail que tu as fait sur cette exposition?
Alors sur cette exposition, j'ai proposé un scénario global de l'exposition très compliqué où on s'est complètement éclaté avec toute mon équipe. C'est-à-dire le Titanic est passé à Cherbourg, a fait l'avant-dernière escale, et donc 4 jours après, il y a eu le naufrage. Et donc j'ai condensé ce temps historique de l'escale à Cherbourg au naufrage en un temps de l'exposition de 30 minutes où j'ai synchronisé tous les dispositifs. J'ai créé plein de films à partir de témoignages, l'équipage, tout le monde nous parle, et tout le monde est dans ce temps historique, c'est-à-dire que le 12 avril 1912, on est à 10 minutes dans l'exposition et il se passe ça. Et tout ça, c'est renseigné par des textes et tous les éléments historiques dont on avait à disposition. Et ça crée vraiment, ça met le public, il rentre dans le paquebot, quoi. Et il vit la traversée. Et ce qui était très magique, c'est que j'ai fait un grand film qu'on appelle le film Horizon, qu'on a appelé comme ça, qui est le proue du bateau, où il y a juste l'horizon. Et des citations et des chiffres et tout ça. Et moi, je disais à mon client, parce que l'espace n'était pas très grand, je leur disais, mais les gens ne vont pas rester, c'est juste la mer, c'est très beau et tout ça. Et en fait, les gens, ils restent pendant 30 minutes. Ils regardent l'horizon, ils regardent les textes. Et donc ça, c'est magnifique, quoi.
Donc là, tu as travaillé l'immersivité à la fois encore avec la scénographie d'espace. Ouais, on est dans un bateau, il y a la
cursive.
Tu as fait une cursive.
Et sans après... décor, hein, sans un décor.
Ah, il n'y a pas de décor.
Enfin, si, il y a du décor, mais j'ai fait des murs penchés, j'ai fait quelque chose d'abstrait. Parce que le décor, moi, j'adore le décor, mais ça vieillit. Ça vieillit pas bien, le décor. Donc, il faut rester un peu simple.
Oui, parce que là, c'est une exposition permanente.
Ouais, c'est permanent, ça y est, toujours.
Et on peut aller voir les
allez
photos
voir,
d'ailleurs hein, sur ouais. ton site.
Aller voir l'expo.
On partagera les ressources ouais. et aller voir l'expo, ouais. évidemment. Donc, on travaille la scénographie, l'espace, etc. Et après, l'immersivité, c'est fait aussi avec ces dispositifs interactifs, les écrans, etc.
C'est ça, mais moi, je fais tout ensemble, en fait. C'est ça le secret, entre guillemets. C'est que l'espace est conditionné par l'atmosphère qu'on veut rendre. C'est vraiment imbriqué, c'est justement ça qui est important. C'est-à-dire que si on fait un espace rond, c'est parce qu'il y a un film qui est rond. Si mm-hmm. on fait, enfin, donc c'est pour ça que je suis spécialisée là-dedans, parce que j'imagine les films en même temps que les espaces. Mes espaces, ils sont construits mm-hmm. par les films.
Tu termines tout juste un projet avec le Quai des Savoirs et Univers Sciences, l'exposition IA double jeu, pour laquelle tu as décidé de traiter l'immersivité différemment.
Ah,
est-ce,
oui.
que tu peux, ouais, est-ce que tu peux nous en parler ?
Ouais, ouais, ce projet, il est assez extrême et je l'aime beaucoup. Il va questionner les gens. On a donc c'est un sujet numérique a priori.
Oui, l'objectif de l'exposition, c'est d'aborder les enjeux de l'intelligence artificielle, sa place dans la société. Voilà, donc voilà. Un sujet très numérique.
Très numérique.
Et donc toi, tu as décidé
que le numérique, c'est pas la première image qu'on a quand on rentre dans l'exposition. J'ai travaillé avec des graphistes très forts qui s'appellent H5. Mmh. Et on a décidé de faire un espace graphique, un espace abstrait.
Qui n'est pas numérique.
Pas numérique. Il y a évidemment plein de films et tout ça, mais qui sont insérés dans les dispositifs. Et on avait envie de placer le visiteur dans un univers vraiment particulier, noir et blanc, avec des motifs qui évoquent l'écriture digitale. Ça, ils ne le savent pas, mais ce n'est pas grave. Justement... Pourquoi on a fait ça? C'est que les experts pointus en digital numérique, ils vont comprendre ce qu'on a voulu dire à travers notre graphisme binaire, noir et blanc, avec ces motifs qui deviennent de plus en plus organiques. En fait, c'est le début du binaire numérique qui se complexifie dans les sections et qui devient de plus en plus organique, de plus en plus complexe.
Ça, c'est,
donc ça, c'est
le long
discours,
du parcours.
Le parcours.
C'est ton discours, mais alors le public...
Ben, le public, il arrive dans un univers complètement abstrait. Parce qu'on voulait justement le plonger comme s'il était dans cette machine d'intelligence artificielle. Il n'est plus dans le monde, il est dans l'abstraction du computer. Donc, ce qui était important, c'est qu'il soit dans un univers très... qu'il ne pourra voir nulle part ailleurs. Mmh. Et ça le questionne, ça va le déranger. Justement, tout à l'heure, j'ai fait un tour dans l'expo, et il y a une prof qui m'a dit « oui, ça dérange ». Et moi, je trouve ça intéressant parce que ça nous dérange, l'intelligence artificielle. Ça nous fascine, mmh. mais ça nous dérange. Donc, ce qu'elle m'a dit, ça m'a plu. Parce que c'est beau en même temps. Enfin, moi, je trouve ça très beau. Donc, aussi, l'esthétique, c'est la beauté des espaces. C'est quelque chose de démocratique. C'est-à-dire, la beauté, tout le monde aime. Alors, les gens n'aimeront peut-être pas. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui réunit le public. Donc, voilà, on a fait une expo graphique. On a mis en trois dimensions des motifs. Et là-dedans, il y a des films, mais il y a quand même des dispositifs immersifs, notamment la boîte noire. On a proposé cette boîte noire avec des films, avec des miroirs. En fait,
Tu peux expliquer le principe de la boîte noire ?
La boîte noire, c'est pour expliquer que l'intelligence artificielle, il y a toute une zone qu'on ne maîtrise pas. Donc, au fur et à mesure des échanges avec les équipes du Quai des Savoirs, on est arrivé à cette forme. C'était assez beau en co-création, en fait. C'est comment on peut exprimer ça. Tout d'un coup, on s'est dit, on va faire une boîte noire. Et du coup... À l'intérieur de cette boîte noire, j'ai mis des films avec des miroirs, donc ça fait des reflets. C'est comme un espèce de cœur intelligent dans une boîte noire que j'ai posé sur un socle en miroir, donc il flotte dans l'espace. Et je suis très contente de cette petite scénographie qui, pour moi, est totalement immersive.
Donc, c'est une boîte noire qui permet à la fois de comprendre et d'avoir des contenus sur la complexité de la boîte noire de l'IA et en même temps qui permet aux visiteurs de vivre une expérience pas forcément explicable, c'est ça ?
Exactement. Et ça, on aurait pu mettre quatre écrans et faire les films. Et puis, la scénographie permet d'ajouter une autre dimension en le mettant en scène. Parce que moi, j'essaie d'éviter les écrans, les télés. Hein. Moi, j'en peux plus des télés.
Il y en a quand même.
Il y en a quand même, mais elles sont là pour renseigner. C'est des interviews. Donc ça... Et là, dans la boîte noire, justement, on est dans des écrans ronds, on est dans des éléments comme ça. Le film de la voiture, il est sur le pare-brise. On essaie quand même d'aller un
peu. On a un film qui aborde, voilà, qui permet d'aborder les voitures autonomes. Oui. Il y a Double Jeu, donc une exposition à voir à Toulouse au Quai des Savoirs de février à novembre 2024 et dès le printemps 2025 à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Clémence, j'ai une dernière question pour toi. Selon toi, c'est quoi la scénographie immersive de demain ? Comment tu vois les choses ?
Ah ben moi, je vois le corps du visiteur qui commande beaucoup de choses, enfin qui, avec ses gestes, fera...
Avec des capteurs, voilà, des Kinect, des choses comme ça.
Qui fait apparaître beaucoup de choses. Je vois beaucoup de médiation. Moi, j'aimerais mieux... Moi, je rêverais que les commissaires soient dans les expositions sous forme de... d'hologramme ou je ne sais trop quoi, pour pouvoir, au lieu de j'adore les textes, hein, il faut garder le texte, la lecture et tout ça, c'est un truc important, mais moi je suis tellement fascinée quand je commence une expo, vu qu'on est avec les meilleurs experts, par le discours des commissaires, ce qu'ils me racontent, ce qu'ils savent, parce que j'aimerais bien qu'ils rentrent dans les expos sous forme virtuelle, et ça, il y a plein de trucs à inventer là-dessus, et avoir justement, réunir les publics qu'on trouve. Comment faire ramener le public avec très haut niveau culturel, que tout le monde soit content, et aussi que les expos de Beaux-Arts fassent rentrer plus d'immersion, qu'ils aient un peu moins peur.
Tout plus en... de contenu, du coup,
ouais,
par rapport à ce
plus
que
de
tu
contenu
disais.
Ou plus de, ouais, plus de médiation d'expos de Beaux-Arts, tout en respectant les œuvres. Donc il y a un enjeu important de comment respecter les œuvres tout en faisant venir les publics grâce à une expérience particulière.
Merci Clémence. Et pour les curieuses et les curieux qui souhaitent en savoir plus sur ton travail, rendez-vous sur le site muséomaniac.com. Sans réserve, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Encore un grand merci à mon invité Clémence Farrel. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site web du Quai des Savoirs pour retrouver toutes les références partagées dans cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre et à en parler autour de vous. Faites du bruit sans réserve. Une émission réalisée par Arnaud Maisonneuve, à la prise de son Laurent Caudoul, une production Quai des Savoirs. Je vous dis à très vite et surtout, restez curieux.